Car le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà.
Balance man, cadence man, trace la classe, c'est le top man.
Courage. Allez, allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi.
Ouh. Hop là.
Mais ne courez pas comme des cons.
Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match, il est pas fini, hein?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e match de Gaulle Volant. 9e match, 9, quel chiffre magique. Comme les 9 secondes et 58 centièmes du record d'Usain Bolt sur le 100 mètres de la finale du championnat du monde de Berlin en 2009. Mais également les 2h, 1 minute et 9 secondes d'Eliott Kipchoge, établi là encore en Allemagne au marathon de Berlin. Soit l'épreuve la plus courte et la plus explosive de l'athlétisme, et sûrement du sport en général, et l'épreuve la plus symbolique de l'endurance et du dépassement de soi. Les limites sont touchées du doigt dans ces deux épreuves. Les limites peuvent être autres qu'une histoire de temps. Ça peut être le poids en haltérophilie, la hauteur ou la longueur encore en athlétisme, l'âge peut être aussi une limite, un handicap physique ou mental dans le handisport peut être une limite aussi, le plus de backflip ou de tour en l'air pour le skate, la trotte ou le BMX, le danger pour l'escalade, le surf, le ski freeride, entre autres. Alors pourquoi aller toucher ces limites? Qu'est-ce qui pousse au fond les femmes, les hommes, à aller chercher leurs limites? Mais tout d'abord, avant que vous répondiez à ces questions, il faut qu'on sache qui est là. Et donc, c'est la compo du jour.
Qui c'est qui est là?
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Jolie brochette.
Alors, pour commencer, celui que le patron d'Eurosport a rappelé pour le supplier de revenir quand il a entendu ce qu'il faisait sur Gaulle Volant, Mathieu, salut.
Oui, bonjour tout le monde.
Salut. Tu nous as concocté quelque chose, je crois.
Moi, je vais essayer de vous distraire aujourd'hui avec okay. Un petit conseil culturel et puis une petite troisième mi-temps.
Trop bien. Ensuite, celui à qui il ne faut pas dire temps illimité pour les chroniques, car sinon il faudrait réserver le studio pour 3 jours. Bienvenue, Jérémy.
Salut.
Une petite ou une grosse chronique aujourd'hui, Jérémy?
Ça dépend.
Ok.
Ça dépend.
Une réponse de Jérémy, ça me paraît plutôt logique. Vient ensuite celui qui, s'il ne fumerait pas, battrait sûrement le record du marathon. Salut, Benjamin.
Salut, Flo.
Salut, Benjamin. De quoi tu vas nous parler, toi?
Eh ben, moi, je vais vous parler de mes propres limites.
Ok, intéressant.
Il en a, donc.
Oui.
Peu, mais il en a.
Celui qui, quand vous ne savez pas ce qu'il fait, vous pouvez être sûr qu'il est au sport. Salut, Jérôme.
Salut.
Un tennis cet après-midi?
Non. Malheureusement.
Tu vas nous parler de quoi?
Je vais essayer de répondre à la question, faut-il des limites pour faire un sport?
Ah. Original.
Oui. Je crois que je suis dans le thème.
Sport et limites.
Alors, la première question de débat, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi aller toucher ces limites? Qu'est-ce qui se pousse au fond les femmes, les hommes à aller chercher leurs limites? Et comme j'ai parlé du sport pro, c'est plutôt autour de ce thème-là, du sport pro, que je vous propose de débattre un petit peu.
Non, bah dans le sport pro, moi j'ai envie de dire que ça fait partie du boulot en fait déjà.
Ouais.
Ça peut bien être
un
payé,
peu pour
bordel.
Ça qu'ils sont payés, voilà, hein, pour se dépasser un petit peu. Mais donc ça me paraît normal et tout à fait normal de vouloir dépasser ses limites quand on est un sportif de haut niveau. On veut toujours aller chercher plus loin.
Alors du coup, je faisais un peu l'introduction sur les limites de chaque sport et non pas de chaque personne. Mmh. Par exemple, tu vois, tu peux être un champion de 100 mètres. Et gagner les championnats du monde ou les JO sans aller chercher la limite du sport, du 100 mètres.
Ah, alors c'est dommage qu'Alban ne soit pas là, parce qu'il aurait dit les Grecs anciens, notamment. Non mais, je finis quand même,
oui,
mon propos.
Vas-y.
Ils n'avaient pas de chronomètre, par exemple, pour mesurer la performance. Et donc, ce qui était valorisé, c'était la prouesse et pas le record, quoi, et pas la limite, finalement.
C'était de battre les autres plutôt que de repousser les limites de la discipline.
Le champion était juste, c'est encore le cas d'ailleurs, mais était juste celui qui était le meilleur à un moment.
C'est encore le cas, mais maintenant se pose la question des records. Notamment, on parle par exemple du 100 mètres. Est-ce que le record du Usain Bolt sera un jour battu?
Oui, ça aussi.
Armand Duplantis au saut à la perche.
Ouais.
qui a un record, je sais plus à combien il est arrivé maintenant, mais qui est assez
18 mètres, je crois.
Non, je oui, mais... c'est un enjeu en fait, effectivement, de repousser les limites.
Avec une limite ultime qui sera atteinte à un moment donné. Voilà, j'imagine. Bah, mais
quand est-ce qu'on saura?
Quand est-ce qu'on saura?
Après, il y a quand même des limites physiologiques. Par exemple, le nombre de calories qu'un corps humain peut dépenser par jour, ça a été calculé, ça, c'est 4000 calories. Okay. Et ça, on sait qu'on ne peut pas dépasser ça. Alors,
après, il y a Lance Armstrong, hein. Tu sais.
Alors, oui. Oui,
pas l'oublier, celui-là. Hein.
Transhumanisme et compagnie voilà. aussi. Là, on peut
sans
aller.
Dopage.
Mais, on peut dépasser, mais après, le corps, il va s'auto-consumer. Quoi. Et derrière, un truc intéressant, c'est qu'il y a...
Consommer.
Oui, oui.
Comment ça se passe?
Voilà, il va...
Une combustion spontanée.
Ouais, mais il y a quelque chose dans la vie quotidienne, justement, où on est à ce seuil-là. Quelque chose que nous, ici, sur ce plateau-là, on n'aura jamais. Est-ce que vous savez ce que c'est?
De l'argent.
C'est la grossesse. grossesse. Pendant la grossesse, ben, les femmes sont juste à cette limite-là de 4000 calories par jour.
Okay. D'accord, ok. Voilà.
Eh ben, on en apprend.
Bah, avec un chroniqueur scientifique de talent comme ça, on apprend pas mal de choses.
Bon, bah, c'était bien pour cette première question de débat. Je crois que Jérôme, tu vas nous faire ta chronique.
Eh oui, c'est à moi. Quel plaisir d'ouvrir le bal.
Bien sûr.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler des limites, parce que c'est le sujet de l'émission. Alors je vous avoue, quand on m'a proposé le thème de l'émission, je ne voyais pas trop ce que j'allais raconter. Et puis j'ai fini d'écrire ma chronique hier soir. Limite.
Comme
d'habitude. Alors en fait, pour moi, au départ, limite rimait un peu avec borderline, extrême, souffrance. Et en fait, peu pour moi, ces sports où les participants dépassent leurs limites, les sports de fifou, vraiment, ce n'est pas mon truc. Quoi. Moi, j'aime les sports de babal, les sports de raquettes. Si vous voulez, pour moi, monter sur un escabeau, c'est un sport extrême. Ne rien manger pendant 6 heures d'affilée, c'est Koh-Lanta.
Ah, oula, ça va être compliqué pour toi là aujourd'hui.
Ah bah oui, je sais pas trop ce que je fous là. Mais en fait, si, je me suis rendu compte que les limites font partie de tous les sports que je regarde pratique. En effet, pour chaque sport, un cadre s'applique. Un cadre qui peut même évoluer en fonction des performances, des besoins télévisuels ou pour assurer la sécurité des sportifs. Alors aujourd'hui, je souhaiterais un peu aider les auditeurs et auditrices qui, comme notre coach Flo nous l'avait révélé lors du match 4, souhaiterait inventer un nouveau sport.
On avait inventé le foot vélo.
Ouais. Wow.
Ouais, attention. Et pendant 15 jours, on avait fignolé les règles. Attention. Les hors-jeux n'existaient pas. Il y avait un joueur qui faisait office de goal en vélo, mais qui était évidemment un goal.
Au volant. Oh, voilà.
Voilà. Bouclé.
Bonne vanne.
Superbe.
Avait-on le droit de bloquer la balle avec une partie du corps et d'avancer en même temps? Pouvait-on poser le pied par terre? Je ne me rappelle plus de chaque règle, mais avoir l'impression d'inventer un sport était très excitant.
Alors, ce n'est pas tout à fait complet, cette histoire. Donc, je vais vous aider un peu si vous voulez créer un sport. Alors déjà, premier point, il faudra déterminer comment se termine le match. Quelle est la limite du match? Alors, pour déterminer la fin d'un match ou d'une course, il y a différentes possibilités. Le temps, le score nécessaire atteint, ou que tous les concurrents aient parcouru la distance et fait leurs différents essais. Alors, si on parle des matchs qui s'arrêtent une fois le temps limite terminé, est-ce que vous êtes capable, autour de cette table, de me dire combien de temps dure un match de basket?
Ah bah oui.
C'est 4 cartons
de 15 minutes.
Après, tu veux dire en temps réel ou en temps
ressenti? Je parle du temps, le chrono.
C'est ça,
quoi.
C'est une heure. 4 cartons de 15 minutes.
Ouais.
Un match de hand?
Bah, pareil.
C'est 4 cartons.
C'est demi-temps, quoi. Une heure, quoi.
Vous énervez pas, hein, c'est juste, je teste un peu vos connaissances. Vous êtes agressif sur vos sports de référence.
C'est lui qui comprend rien de ce que je dis.
Un match de foot classique, de championnat.
90 minutes.
Oh, c'est long, hein. Tellement long. Des fois, ça dure 120 minutes.
C'est de la provocation.
Des fois, ça dure 120 minutes. Des fois, on reste 3 heures dans le stade.
Un match de rugby.
80.
Un match de hockey sur gazon.
Oh, la vache. 2 fois 40.
70.
C'était 60. Un match de water polo.
60.
Ça doit pas être beaucoup.
Ouais, parce que ça, c'est fatigant.
Ça doit être 40 minutes, deux demi-temps de 20 minutes.
Et là, c'est 32, 4 fois 8.
32, 4 fois 8. On se moque de moi pour mes 70, mais 32, c'est un peu.
Oui. Un match de volley.
Ah, bah, il n'y a pas de temps.
Oui,
ils sont pas tombés.
C'est comme les 3-7 gagnants.
Ils sont pas tombés dans le panneau. Eh bah, oui, parce qu'on ne peut pas savoir, parce que le volley se termine quand un score est atteint, comme les sports de raquettes. Alors en tennis, par exemple, les matchs d'un tournoi du Grand Chelem se disputent en 5-7 gagnants. Est-ce que vous connaissez le match le plus long en tennis?
Ah, c'est un Mahut.
Mahut,
t'as le premier joueur. C'est à Wimbledon.
Oui.
Wimbledon, oui, machin. Mahut Isner, non?
Mahut Isner, en 2010 à Wimbledon, 11h05 de jeu. Le score du dernier set? 70-68.
Là, on parle de jeu, là?
Ouais.
Oh la
Alors pourquoi ce record n'a aucune chance d'être battu?
Parce que c'est plus comme ça.
Ah, comment ça se passe maintenant?
C'est un tie-break, c'est ça?
Un super tie-break.
Un super tie-break, c'est ça.
Ouais, en 10 points à 6-6 dans le cinquième set. Donc, à moins qu'il rechange les règles, le record a très peu de chances d'être battu. D'ailleurs, ce super tie-break a remplacé le troisième set chez les amateurs dans un grand nombre de compétitions. Donc déjà, si vous inventez votre sport, il va falloir choisir entre une fin de match au score ou alors une fin de match au temps.
Est-ce qu'on aime faire un bloc bas, bloc au milieu, bloc haut, position du ballon haute, joueur écarté, joueur qui rentre, qui écarte. Enfin bref, je suis parti un peu trop loin déjà là. Mais
bon, si c'est trop compliqué, vous pouvez choisir d'organiser une course. Mais pareil, une course, c'est pas si simple. Il faut quand même fixer un peu des trucs, quoi. Par exemple, le Tour de France, est-ce que vous savez combien de temps a le dernier pour arriver après le premier?
Ça dépend des étapes.
C'est un calcul.
Je le savais en plus, le calcul.
Le Groupetto, tout dépend. De la difficulté de l'étape et des coefficients d'école et
c'est
de tout ça.
C'est le temps qu'ils ont mis pour faire l'étape.
Voilà.
Le premier a mis tant de temps et c'est...
C'est un pourcentage en fait, du temps du vainqueur en fonction, effectivement, comme l'a dit Jérém, de la difficulté de l'étape. Ça peut être de 4 à 20% du temps mis par le vainqueur à ses concurrents pour terminer l'étape. Exemple, si Thibaut Pinot gagne l'étape en 2 heures.
Ça n'arrive pas.
Ça n'arrivera plus.
On déconne là. Hein. Alors que les commissaires ont déterminé qu'ils attribuaient un délai de 10% aux autres coureurs, ils devront tous finir l'étape en 2 heures et 12 minutes. Les 12 minutes correspondant aux 10% du temps qu'a mis Pinot.
Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave.
Bon, alors ensuite, il faut déterminer les limites du terrain pour le nombre de joueurs.
Bien sûr.
Ou déterminer la limite du nombre de joueurs par rapport au terrain. Donc, bien sûr, il y a des sports pour lesquels les dimensions varient énormément. Par exemple, le foot, j'ai appris ça, ça peut aller du simple au double. Ouais. C'est important, les limites. Hein. À nous. Elle est à nous, la touche, là. C'est lui qui la touche en dernier. Tout ça, évidemment, à 45 mètres des buts adverses. Alors sinon, juste, je me permets de faire passer un message aux architectes qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux. Si un jour on vous confie la construction d'un gymnase au sein duquel on imagine que certaines personnes s'adonneront à la pratique du tennis, comment vous expliquer? Le terrain tracé avec juste un mètre autour, ça ne suffit pas. Le terrain, c'est l'endroit où la balle doit rebondir. Le joueur, il a besoin de recul. À votre avis, combien de recul a besoin le joueur de tennis?
7 mètres.
Oh, plus.
À 10, 5. Oh,
un bon 10 mètres, moi, je pense.
Alors, c'est 5,50 minimum, même si j'ai fait des matchs où il n'y avait pas du tout ça. Et c'est 6 mètres 10 préconisés par la Fédération française de tennis. Bon, alors, si vous tentez de créer un sport collectif, je vous conseille de faire différents tests et de réajuster les limites du terrain en fonction de comment ça se passe. Après, il faudra encore limiter de nouvelles choses. L'utilisation du ballon par les joueurs, si c'est un ballon. Ça, ce n'est pas non plus obligé. Il peut être rond, il peut être ovale, ça peut être une balle, un volant, un frisbee, une branche, une chèvre, un artichaut, ou rien peut-être. Limiter son utilisation à la main, aux pieds, aux cuisses, au dos, aux gencives. Est-ce que vous commencez à entrevoir l'idée d'un sport où on marque des points en se servant de ses gencives pour envoyer un artichaut dans un coin? Il faut aussi délimiter la zone où on peut marquer un point, un but, un panier. Bien. Ensuite, il faudra aussi poser peut-être d'autres limites pour éviter des dérives. Au basket, on ne peut pas aller dans la raquette plus de 3 secondes. Pour éviter qu'un joueur ne campe devant le panier. Au foot, c'est la règle du hors-jeu qui empêche le camping. Alors, il y a des ambitions dans certains sports. C'est aussi pour limiter les risques pour la santé. Le rugby est en train de changer. En 2006, un plaquage a été interdit. Est-ce que vous savez de quel plaquage il s'agit?
De cathédrale.
Oui, exactement. Qui consiste à saisir son adversaire et lui planter la tête dans la pelouse, finalement.
Ah bah oui.
Il y a la cuillère. Un geste qui consiste à enlever le pied d'appui d'un adversaire qui court avec la main pour qu'il se pète bien la gueule. Autorisé ou interdite?
Au rugby?
Ouais.
C'est autorisé. Ça.
Ah, j'ai entendu les deux.
Non, interdit.
C'est validé, ça.
Bien sûr, c'est autorisé.
Autorisé chez les pros, mais interdit chez les jeunes et les amateurs. Au foot.
Vraiment des bourrins.
Au foot, en Angleterre, les têtes ne sont plus autorisées chez les jeunes de moins de.
C'est vrai. 12 ans, je crois, non?
Exactement, ouais. 12 ans. Mesure pour limiter les risques de problèmes neurodégénératifs chez les footballeurs. Après ça, moi, je vois pas trop où est le problème, parce que moi, j'ai commencé le foot très jeune, j'avais plutôt un bon jeu de tête et j'ai jamais constaté.
On l'a perdu.
Quoi j'ai jamais constaté de dégâts problème, particuliers. Ouais. Bref, limiter, créer un sport, c'est limiter. Après, dans un second temps, si vous avez du succès, il faudra peut-être limiter l'usage de certaines substances, limiter l'usage de certains équipements, du nombre de participants, pour préserver la sécurité, le spectacle, la compétitivité, l'équité, l'éthique. Bon, après, sinon, vous pouvez aussi décider de faire n'importe quoi.
Soit on recalcule les points, soit on compte, soit on divise par 6,
Soit on jette les bouts de bois de 15 pouces, ça c'est quand on joue avec les bouts de bois. Soit on se couche, soit on joue sans atout. Et après, il y a les appels. Plus 1, plus 2, attrape-oiseau, rigodon ou chante-sloubi.
Voilà. C'était ma chronique et je crois qu'il aurait fallu que je limite ma chronique. J'ai mis trop de temps.
Merci, Jérôme.
De rien.
Une petite musique.
Ah. On va s'écouter un petit Jack White, If I Die Tomorrow.
If I die tomorrow, could you find it in your heart to sing? If my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, will you know exactly what to say today? She won't mind the trouble. She's been through it all before. I know she'll say, make it a double of her lemon drink. And before you know, she'll be laughing about the times and those old days. So if I die tomorrow, promise you can walk away okay, okay. About it, so it helps to shout it. And if you could help me out, it would mean so much for my peace of mind. And her heart is careworn, and ever since I was a newborn, I've pushed aside this worry for the sake of my life. Begged and I borrowed everybody's love, and they gave for free. And I wish that I could give it back to them. So if I die tomorrow, will you give them all the love they lent to me?
Eh bien, petit morceau de Jack White qui fait du bien. Et on a notre Mathieu qui est venu à la table avec nous et qui va nous faire un petit conseil cul.
Le conseil culturel de Gaulle Volant.
Le conseil cul
culturel.
Oh. Le conseil cul.
Oui, ben moi c'est une série culte que je vais peut-être vous donner l'envie de voir ou revoir aujourd'hui. Une série qui a marqué toute une génération. La mienne, hein, pas la vôtre, vous êtes bien trop vieux les gars. Une série culte qui va fêter ses 30 ans, mais qui, à mon grand regret, n'est étrangement pas diffusée sur les plateformes de streaming, malgré ses 3 saisons et ses 104 épisodes. Une série qui a suscité mes premiers émois d'adolescent prépubère et qui a probablement déclenché mon attirance toujours vive pour les taches de rousseur. Une série qui a même permis de révéler de jeunes talents du cinéma français, comme Marion Cotillard, Vincent Elbaz, ou encore Élodie Bouchet.
Toujours plus loin, plus fort, plus vite.
C'est mythique.
Au bout de l'extrême limite.
Yeah.
Tu vas droit.
Des paroles qui décoifferaient même notre Corentin ici présent, chanté par un Grégory Baquet sous acide, le tout sur un montage bien péchu d'images d'action. Imaginez donc. Des VTT qui dévalent la pente, un athlète qui sautille sur un trampoline, du sky surfing, de jolies blondes qui escaladent une falaise dans un body mauve fluo, un deltaplane qui frôle une voiture, des corps dénudés sous le soleil de la Côte d'Azur. Vous l'avez reconnu, c'est le générique d'Extrême Limite, la série d'action et de sport lancée en 1994 sur TF1. Elle suit le quotidien de beaux et jeunes adultes, membres de l'Académie du sport extrême. Après avoir subi des épreuves de sélection toutes plus difficiles les unes que les autres, il et elle ont l'honneur d'intégrer cette école de champions. Dans le site idyllique du Cap Estérel sur la Côte d'Azur, ils vont alors pouvoir exercer toutes sortes de disciplines extrêmes comme la varap, la planche à voile, le 4x4, le parachutisme, le ski nautique, le VTT. Dans chaque épisode, un défi sportif leur est lancé. Et pour le relever, ils doivent se surpasser physiquement et mentalement. Affronter de nombreux dangers, des pépins physiques, des sabotages, des crises de confiance ou encore toutes les pressions psychologiques inhérentes à la pratique d'un sport de haut niveau. Le tout sur fond d'amourette, parce que bon, c'est quand même ça le nerf de la guerre. Un vrai festival d'action donc. Enfin ça, c'est sur le papier. Parce que bon, faut être honnête, tout dans Extrême Limite fait pitié. La série nous ramène au bon vieux temps où on n'avait pas encore conscience en France qu'il était possible de faire des séries ambitieuses et de qualité. On est à la fin des années Club Dorothée et AB Productions. Et à cette époque, il faut le dire, la série télé ne sert qu'à remplir la grille horaire des chaînes. Et ce d'autant plus que le gouvernement Rocard vient de pondre le fameux décret TASCA qui impose des quotas de production et de diffusion d'œuvres françaises aux heures de grande écoute.
Ah.
Ce qui fait qu'on se retrouve à l'époque avec la diffusion en fin d'après-midi de séries destinées aux ados du style Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Seconde B. Ouais, c'est justement ça Extrême Limite. C'est plus Hélène et les garçons partant en colo sportif sur la côte que Friday Night Lights. Côté photographie, on est plus dans un bon vieux roman photo de Nous Deux Magazine que dans Million Dollar Baby. Tous les clichés sont présents et chaque épisode sombre dans le médiocre et le comique involontaire. D'abord à cause du scénario, enfin si on peut appeler ça comme ça, d'une pauvreté déconcertante reposant sur des personnages ultra stéréotypés. Les titres d'épisodes en donnent une idée et reflètent bien la platitude et le sexisme latent. Une affaire d'homme, patronne d'un jour, instinct maternel, Cathy fait sa crise. Cela malgré l'épisode 29 de la saison 2 intitulé « L'Académie en rose et bleu » où le sponsor de l'Académie préfère voir ses couleurs défendues par Mathieu, oui, il s'appelle Mathieu, plutôt que par Juliette, bien qu'elle soit plus performante.
Il pense que la moto, c'est un sport d'homme. Il voudrait donner une image plus virile à SpaceX.
Non mais ce gros Moyen-Âge, ce regard. Je vais aller voir deux minutes ce macho, il va changer d'idée. C'est inadmissible, c'est du racisme.
De la misogynie tout au plus. C'est un homme.
Alors la bafouée Juliette commence à militer pour la cause des femmes avec sa copine Paloma qui milite jusque dans sa chambre.
Qu'est-ce que tu fous là?
Bah, j'enlève mes chaussures.
J'ai l'intention de me coucher dans 5 minutes.
À ton avis, je suis là pour faire une partie d'échecs.
Eh ben, je crois que t'as pas tout compris là. Ici, c'est ma chambre, mon lit et j'y dors seule.
Attends, l'avantage des femmes de ménage, c'est qu'on peut se réconcilier sur l'oreille.
Excuse-moi. Je n'ai pas envie de faire l'amour avec un mec qui méprise les femmes. Désolée de blesser ton amour propre, mais j'ai pas du tout envie de toi.
Allez!
D'accord. Alors, tu fais la grève de l'amour par solidarité, mais je te connais, tu tiendras pas longtemps.
C'est ça, j'ai toujours rêvé, ça t'aidera à dormir.
Mais oui.
Ouais, ouais, vous avez bien reconnu le bagout et le talent de la grande Astrid Veillon, révélée par cette série, et qui quittera plus jamais les écrans après d'ailleurs. Cet épisode est à l'image de la série et les acteurs qui ne sont déjà pas aidés par leur charisme subostracé doivent en plus se démerder avec des dialogues écrits par ChatGPT.
Salut.
Salut.
C'était superbe.
Ça fait longtemps que t'es là ?
Une heure. Je pouvais plus m'arrêter de te regarder. C'est comme si tu jouais avec les oiseaux. Ça me fait tellement rêver, l'ULM.
Oh, cette chute ! C'était Marion Cotillard.
Non.
Il y a quand même une époque où on a exécuté des scénaristes pour moins que ça, je crois. Donc vous l'aurez compris, cette école du sport est aussi et surtout une école de la vie. Car le monde des adultes et le monde du sport ne sont toujours pas aussi vertueux que ce dont ces jeunes et beaux idéalistes rêvaient. Ils vont tous apprendre comment encaisser les échecs ou savourer les succès sans nuire à la cohésion du groupe. Mais grâce au sens de l'amitié et de la justice de chacun, ce sont toujours la bonne humeur, l'humour et l'amour qui triomphent. Alors, pourquoi Extrême Limite dans notre conseil cul, me direz-vous ?
Oui. Pourquoi ?
D'abord, il fallait bien que je colle un peu au thème de l'émission. Ouais. Moi, contrairement à certains. Sinon, après, on se fait engueuler par le coach. Et ensuite, pour donner surtout un conseil culturel, non pas à vous, chers auditeurs et auditrices, mais plutôt aux producteurs et diffuseurs. Le sport et les séries sont deux grosses passions françaises et se partagent la plus grosse part des audiences. Comment expliquer alors qu'aucune série sportive digne de ce nom ne soit produite en France ? À quand un vrai drame qui prendra aux tripes les fans de rugby ou de cyclisme autant que ceux du bureau des légendes ? Et puis, je dois avouer, La raison première de vous parler d'Extrême Limite aujourd'hui, c'était juste pour le petit plaisir coupable de vous mettre en tête pour le reste de la journée ce fameux générique.
Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite.
Merci Mathieu pour cette chronique, elle était top.
Mais avec plaisir, je vous chroniquerai d'autres séries d'anthologie.
Car bah ça, c'est une série d'anthologie, je l'avais oublié moi personnellement. On va passer à Jérémy pour ta chronique, Jérémy.
L'idée aujourd'hui, même si ça transpirait pas l'évidence au début, c'est de se poser la question suivante. Est-il possible, est-il souhaitable de passer les limites dans le sport ? Avec un sous-titre, juste parce que j'aime bien les sous-titres. Faut-il oser, pardon, les limites, tout court ? Parenthèse, c'est toujours le risque dans ce genre de circonstances. La dernière fois, le coach est arrivé avec l'idée de mettre en place des thèmes dans cette émission afin que nous puissions finalement travailler de manière plus structurée en pensant des séquences de travail. Un dispositif pédagogique, somme toute assez classique, qui nous permettrait néanmoins in fine une évaluation à la fois formative, sommative et réflexive via une utilisation plus circonstanciée d'un champ lexical et sémantique mieux défini.
Il va parler des limites.
Et donc, à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que finalement saupoudrer nos propos d'intervention extérieure un peu limite, pas pour les soutenir, mais pour les caractériser, tel un fil rouge, n'est-il pas quelque part une façon d'aborder le thème des limites dans Golvolant ? Fin de la parenthèse. Allez, passons maintenant à la phase un tout petit peu plus futée de cette chronique. J'ai décidé de vous raconter une histoire, parce qu'une bonne histoire, ça, c'est pas gagné, vaut selon moi parfois mieux qu'une fastidieuse étude à la croisée de la science et de la sociologie du sport. Allez, embarquement immédiat pour Yamoussoukro, histoire de se demander, si vous n'avez pas encore compris, jusqu'où finalement est-il possible dans le sport de jouer avec limite. Et pour parler de cela, nous prenons aujourd'hui le chemin d'une anecdote de sport automobile. quasiment passé aux oubliettes, mais brillamment raconté par Ambroise Brosselin sur son blog Automotive Press, que je salue, et dont les détails se trouvent dans un article du magazine Sport Auto numéro 287-287. Rendez-vous donc tout de suite au cœur du rallye de Côte d'Ivoire 1985. 4192 km à travers le pays, 50 partants, 8 classés, 85% d'abandon, à croire que c'était fait exprès. Il n'est donc pas très surprenant qu'arrive la chose suivante lors de la 17e étape du rallye de Côte d'Ivoire qui nous intéresse. La voiture de l'équipage Mouton Hertz se met à connaître des problèmes de moteur et doit s'arrêter sur le bas-côté. Très vite, Michel Mouton doit se rendre à l'évidence. Il va avoir du mal à suivre derrière les deux Toyota. Rapidement, l'Audi Quattro numéro 11 de Mouton Hertz dégage une épaisse fumée blanche, symptôme des plus classiques d'une panne malheureusement bien connue. J'ai nommé quelqu'un en studio ?
Non. Je suis perdu.
Le joint de culasse.
Les limites du joint de culasse.
Bref, les techniciens allemands savent faire alors pour tenter de réparer le moteur. Voilà. C'est ce moment que j'ai choisi pour citer André, dit Dédé, garagiste à Gerbévillers dans le 54, qui, bien conscient de mes lacunes en mécanique, s'était un jour affairé à côté de ma 205 GR rutilante de 1985, afin de m'expliquer les impondérables pour faire fonctionner un moteur. Alors oui, attention, imitation, mais comme d'une part, vous ne connaissez pas ce monsieur, et d'autre part que ce monsieur n'a probablement pas de connexion Internet stable, eh ben, c'est bien pratique. Donc reprenons. Que faut-il pour faire fonctionner un moteur ? Tu vois, mon petit, un moteur, pour que ça marche, c'est comme un homme, il lui faut de l'huile, puis il lui faut de l'eau.
Je savais pas qu'il était en studio.
Jamais rien capté, fin de l'histoire, on y retourne.
Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, autant béni des colonies.
Fil rouge. Bref, revenons à nos moutons, Michel. Enfin, Michel Mouton. Enfin, je veux dire, revenons à nos moutons, qui en l'occurrence s'appelle juste Michel Mouton. Ça suit ?
Oui.
Justement, des rumeurs se mettent à courir quant aux pratiques d'Audi. La Quattro, qui a dû quitter la route, réapparaît 1h23 plus tard au point de contrôle suivant. Et tout paraît fonctionner à merveille. Encore plus étonnant, la deuxième Audi, celle de l'équipe Brown Fisher, ne passera jamais ce point de contrôle. La marque arguant d'une défaillance mécanique. Alors, à l'arrivée, la Quattro numéro 11 porte bien le numéro 11, mais plusieurs points de détail amènent à penser qu'il s'agirait en réalité de la voiture numéro 4, celle de Brown Fisher. Le pare-brise sur la Quattro numéro 11 à l'arrivée ressemble effectivement fortement à celui de la voiture numéro 4 sur lequel était apposé un autocollant facilement identifiable. Normal, l'antibuée était hors service et les pare-brises ont été intervertis, dira Audi. Le problème est en tout cas suffisamment pris au sérieux par le collège des commissaires sportifs qui ordonne une enquête. Et la surprise, tout est conforme. Mais en fouillant un petit peu les rapports, on se rend compte qu'un élément pouvant évidemment être considéré comme un prérequis n'a pourtant pas été vérifié. Le numéro de châssis. Mais alors, est-il possible de maquiller aussi bien une voiture de course comme dans GTA 3 jusqu'au plombage normalement infalsifiable en si peu de temps ? Absolument impossible, affirment de concert les commissaires techniques Jacques Chambon et André Lafontaine. Vous me voyez venir ? Enfin, peut-être pas. Enfin, peut-être. Eh bien non, cette petite histoire n'a pas de dénouement. Et quand on y regarde de plus près, est-ce vraiment un problème ? Mais alors, quel intérêt de vous raconter aujourd'hui une sombre histoire sans fin de pseudo-triche non avérée dans le cadre d'un rallye il y a près de 40 ans ?
Oui, voilà.
Merci de le dire, quand même.
Eh bien, en fait, parce qu'on l'on est, selon moi, dans un cas de figure où, justement, tout se joue si l'on dézoome un peu. Ça vient, Jérôme, ça vient. Ah. Parce qu'il ne s'agit en fait que de cela. La question des règles et de leur transgression nous ramène aux règles du jeu cette fois. Et d'ailleurs à la difficulté d'affirmer l'existence d'un lien systématique entre sport et jeu. C'est Isabelle Queval, philosophe maîtresse de conférences à l'université Paris-Descartes, qui nous en parle dans son article « Faire du sport, est-ce jouer ?». Ainsi, je simplifie largement le propos. Elle nous explique que certaines pratiques compétitives sont des jeux au sens strict, le tennis ou le rugby par exemple, et que d'autres, comme le parachutisme ou la plongée en apnée, ne le sont pas. Le sport est jeu lorsque certaines conditions sont réunies. Au-delà des sports qui sont par définition des jeux, le sport est un jeu parce qu'il est, et cela permet de faire le lien, voire de lancer le débat avant la prochaine thématique, un mode d'être compétitif, où l'on calcule temps et distance, compte les points et désigne un vainqueur. Quand ce n'est pas, et le détail qui arrive est selon moi essentiel, auprès de soi seul que le défi est lancé. Il l'est aussi parce que situé dans un espace-temps précis du champ social, dans un environnement bien spécifique, avec des périodicités régulières, selon des règles acceptées et autonomes. Prenons un exemple simple. GG et Caris, appelons-le Jérôme, et GG et Booba, appelons-le Jérémy, fan inconditionnel de MMA, souhaitent depuis toujours s'affronter dans le combat du siècle. Ouais. Problème, Jérémy, malgré le fait qu'il mange des pâtes au beurre tous les jours, ne pèse que 50 kilos quand il fait froid. Jérôme est pour sa part plus proche des 88 kilos quand il fait chaud. La semaine avant la pesée, Jérôme a une idée. Il se rase la barbe et les cheveux et ne boit ni ne mange pendant 7 jours. Il atteint ainsi, la veille du combat, 52 kilos, permettant alors de concourir dans la même catégorie. GG Caris fracasse GG Booba, ne se privant pas néanmoins de se goinfrer de kebab dès le lendemain, frôlant le quintal dès le mardi suivant. Triste vie. Citons alors à cet instant George Orwell qui nous dit « Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. » Puis Sniper qui nous dit avec justesse « Il n'y a pas de mérite. Holo, 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 oho. » Ce que je veux dire, c'est que c'est bien le détournement de la règle sportive qui nous intéresse, puisque c'est son interprétation inédite qui pose la question de ce qui fait la frontière, la limite entre une tricherie et un progrès. Et comme souvent, ce qui est facteur de progrès dans le sport de haut niveau finalement a souvent été jugé limite à un moment donné. Bref, finalement, quand on a dit tout ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais j'étais très heureux de vous raconter cette histoire, certes un peu noyée dans un tout petit océan de divagation. Allez, sur ce, je vous quitte avec au-dessus de mon esprit la douce odeur de la savane ivoirienne mêlée au parfum, disons, de l'huile d'olive ou de moteur que j'avalerai bientôt, histoire d'être en pleine forme. Et oui, il faut toujours écouter Dédé et le directeur du rallye de Côte d'Ivoire qui nous rappelle de manière un peu limite que là-bas, si tu vois passer un cafard avec la queue en l'air, méfie-toi, c'est un scorpion. Allez, tchuss. Try, baby, try.
De sport et société en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
Eh ben merci Jérémy de nous avoir envoyé ce petit Still Loving You de Scorpion. Et merci pour ta chronique. Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça une chronique ?
Non.
Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre nom ?
On va peut-être rappeler le thème de l'émission.
Le thème de l'émission.
Le principe de la radio, sinon, si tout simplement.
Oh, ça balance. c'est des petits ovnis, c'est très sympa. Vraiment, ça aère le.
Oui, ça vient d'ailleurs.
C'est vrai. Ça vient d'ailleurs. On est sur quelque part d'autre.
Avec plaisir.
Benjamin, tu vas nous faire ta chronique.
Maintenant. Oui. J'y vais. Je vais parler des limites. Hein. Je reprécise. Hein. Dans une pratique sportive, lors d'un effort, la question que je me suis posée, elle est simple. C'est comment sait-on qu'on a atteint ses limites et comment faire pour les dépasser? Je veux dire, les limites d'un terrain de sport, bon, pour la plupart, elles sont bien marquées. Hein, tu franchis la ligne blanche et là, tu es en dehors des limites du terrain. Mais quand tu cours, par exemple, bah, il n'y a pas de coup de sifflet pour te dire hop, tu t'arrêtes là. Non. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais tu le sens dans ton corps, tu n'en peux plus, tu es à bout de souffle, tu as la tête qui tourne. Certes, mais ce moment précis là où tu te dis, ça y est, j'y suis, c'est ma limite, bah, il est quand même très flou, quoi. Il peut durer, il peut passer, il peut diminuer. Alors pour vous, j'ai mouillé le maillot, afin d'avoir une réponse claire à ma question. J'ai mis au point un protocole scientifique d'une redoutable efficacité. Je me suis rendu sur la piste d'athlée avec un plan. Je cours rapidement, j'accélère, j'augmente ma vitesse et je finis à fond. Et pendant cet effort continu, j'ai envoyé notre reporter Jérôme voir ce qu'il se passait dans mon corps. Comment ? C'est très simple là encore. Grâce à un dispositif de miniaturisation.
Oui.
Jérôme a navigué en toute sécurité dans mon corps. Ne vous en faites pas, chères auditrices et auditeurs. On a enregistré tout ça et puis je vous propose d'écouter.
Bah oui,
nous sommes dans le système auditif de Benjamin, en direction du cerveau, où je pense trouver quelqu'un qui nous expliquera ce qu'il se passe actuellement dans ce corps. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Ah bah, vous me connaissez ?
Bien sûr.
C'est bizarre, j'ai l'impression de parler à Benjamin.
Est-ce vraiment si étrange ? Après tout, je suis l'architecte de ce corps et le siège de son âme.
Vous êtes donc le chef d'orchestre ici. J'imagine qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, dans les muscles, le cœur ou les poumons. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez mis en place pour soutenir l'effort de Benjamin ?
Mais comme vous êtes là, je vous propose d'aller voir directement. Nous circulons actuellement à travers certains capillaires. Ils se sont dilatés pendant cet effort afin d'augmenter le débit sanguin. Nous irons plus vite. A l'inverse, les vaisseaux des organes au repos, comme l'intestin ou les reins, se contractent. Vous avez mis en route une machine complexe.
Qu'est-ce qui circule autour de nous ?
Les globules rouges.
Ils s'adaptent aussi ?
Oui, afin de libérer plus d'oxygène.
Peut-on augmenter leur nombre ?
On peut, à l'aide de certaines vitamines, ou en allant en altitude, ou en prenant de l'EPO. Nous arrivons au poumon.
C'est gigantesque,
n'est-ce pas ? Les muscles intercostaux se soulèvent et la cage thoracique augmente de volume. En ce moment, les poumons ventilent 130 litres d'air par minute, l'équivalent d'une baignoire.
Waouh, quelle machine, Benjamin !
Non, pas tant finalement. Pour une personne normale un peu entraînée, ça varie entre 80 et 150. Pour les sportifs de haut niveau, ça va jusqu'à 250.
Ça serait ça la limite alors ?
C'en est une, oui.
Comment peut-il faire pour la dépasser ?
L'entraînement. Peu importe les forces, si on ne les entraîne pas, les poumons ne pourront pas fournir davantage.
Et qu'est-ce qui a besoin de tant d'oxygène ?
Oh, vous connaissez déjà la réponse. Venez, suivez-moi. Voici les quadriceps. Ce ne sont pas les seuls muscles sollicités en ce moment, mais ils illustrent bien ce qu'il se passe. les muscles augmentent leur consommation d'oxygène en le captant davantage dans le sang. Ici, Benjamin est passé de 0,7 ml d'oxygène par minute et par kilo de muscle à 50 ml.
Il l'a presque décuplé.
Oui, mais il n'ira pas plus loin, à moins de s'entraîner une fois de plus. Les athlètes de haut niveau se situent à 85 ml.
Ok pour les muscles, où va-t-on maintenant ?
Attendez, ils ont aussi besoin d'énergie. Au repos, cette énergie est stockée par le biais d'une molécule, l'ATP. Mais pendant l'effort, ces stocks diminuent très rapidement. Il faut donc aller prendre de l'énergie autre part, le glucose par exemple. D'où l'intérêt d'une bonne hydratation et d'une bonne alimentation. Et en dernier recours, il faudra produire de l'acide lactique. C'est ce qui se passe actuellement. Benjamin doit commencer à ressentir des brûlures et de la fatigue dans ses muscles.
C'est ce qu'on disait, c'est le ressenti qu'on a lorsqu'on frôle nos limites.
C'est un bon indicateur en effet. Venez, allons maintenant voir le moteur de tout ça. Voici ma pièce maîtresse, le cœur. Écoutez comme il bat.
Ça va très vite, en effet.
Fréquence cardiaque maximale. Il ne tiendra pas longtemps. C'est dangereux de rester dans cette zone. Les athlètes essayent de rester au seuil, un peu en dessous.
Il ne peut pas la dépasser ?
Non. La fréquence cardiaque maximale dépend de l'âge. Pour Benjamin, elle est aujourd'hui de 185. Mais elle descendra au fil du temps, c'est inéluctable.
Mais le cœur est un muscle. Avec l'entraînement, il se développe, non ?
Oui. Avec l'entraînement, ses contractions seront plus puissantes et il utilisera lui aussi l'énergie plus efficacement. Actuellement, il envoie 28 litres de sang par minute, mais il n'atteindra jamais les 36 litres d'un athlète de haut niveau. La fréquence cardiaque maximale ne pourra pas être améliorée. Toutes les limites ne peuvent pas être dépassées. Venez, j'ai une dernière chose à vous montrer avant qu'il ne craque.
Nous sommes de retour à la case départ dans le cerveau. Que s'y passe-t-il ?
Tout ce que vous avez vu pendant votre voyage, c'est moi qui le mets en mouvement. Et ça ne se fait pas tout seul. Le corps n'a pas forcément envie de souffrir. Et lorsqu'il souffre beaucoup, lorsqu'il donne le maximum, comme en ce moment, il faut l'encourager, le motiver.
Comment faites-vous ?
J'active le circuit de la récompense.
Le circuit de la récompense ?
La dopamine, entre autres. Aimez-vous le chocolat, Jérôme ?
Oui.
Quand vous mangez du chocolat, vous éprouvez du plaisir. Votre corps libère cette hormone, la dopamine, qui vous pousse à reproduire l'action qui vous a procuré tant de plaisir. Et vous remangez du chocolat. Pour Benjamin, le chocolat, c'est la course. On l'aide à tenir, à supporter l'effort.
Eh bien, merci pour toutes ces explications sur les limites. Des limites existent, certains peuvent être repoussés avec l'entraînement, d'autres non. Et le corps peut produire certaines substances pour se dépasser et tenir.
En résumé, c'est à peu près ça, oui. Mais vouloir atteindre, voire dépasser ses limites, n'a pas que du bon. Comme vous l'avez constaté, elles sont souvent régies par des lois naturelles, comme le vieillissement. Si j'avais un conseil à donner à vos auditeurs et auditrices, ce serait le suivant. Chacun et chacune a ses limites. Vous savez que vous allez mourir un jour, mais l'important ce n'est pas à quel moment, mais ce que vous ferez du temps qu'il vous est imparti. L'essentiel ce n'est pas la destination, mais le voyage. On ne peut pas éternellement dépasser ses limites. On peut s'en approcher en s'entraînant, mais gardez toujours en tête le plaisir, les petites prouesses. Une fois que vous connaissez vos limites, vous devez apprendre à les gérer et à faire au mieux avec ce que vous avez. Connais-toi toi-même.
Merci encore, bon courage pour gérer la fin de l'effort et la récupération. C'était Jérôme pour Gol Volant dans le corps de Benjamin.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié le voyage dans mon corps.
C'était génial. Hein,
j'ai testé un nouveau format avec sérieux et réalisme, n'est-ce pas ? J'espère que ça vous a plu en tout cas. Non, plus sérieusement, si vous voulez vraiment connaître vos limites, faut vous entourer de vrais médecins et faire un test à l'effort, calculer votre VO2 max, des choses comme ça. Et puis après, vous saurez tout. D'ailleurs, je pense que c'est important de le savoir. Et j'irai même plus loin, comme ça a été dit dans le reportage. Je pense qu'il ne faut pas forcément chercher à dépasser ses limites. Je vous donne juste deux arguments rapides et puis je vous laisse la parole. On a bien vu ce que ça amène dans le sport de haut niveau, le dopage. Le recours à des opérations, des injections. Et puis même aujourd'hui, on commence à aussi parler, à évoquer des choses comme le transhumanisme, hein, avec cette image un peu de cette vision de l'athlète robot. Donc ça, c'est mon premier argument. Et le deuxième, c'est ça sort un petit peu du cadre purement sportif, mais je trouve que dans notre société, il y a cette injonction à toujours se dépasser, se donner à 200%. Et on voit aussi ce que ça donne, hein, les burn-out, le mal-être au travail, etc. Moi, je revendique un petit peu un droit à la paresse. Voilà. Alors, Paul faut-il, Lafargue. Pour vous, est-ce qu'il, vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'il faut dépasser ses, est-ce qu'il ne faut pas dépasser ses limites, ou est-ce que vous pensez qu'il faut les dépasser?
Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a quelque chose sur les limites ou sur ce que les gens doivent faire, que ce soit dans leur travail, leur vie personnelle, où il y a une injonction à réussir, une injonction à l'intensité. Effectivement, moi, je revendique aussi ce droit à...
Toi, tu parles plus de la vie quotidienne.
Je parle d'un peu tout. Je parle sur le sport, il faut avoir un objectif. Enfin, je pense que les gens qui faisaient de la course à pied il y a 30 ans n'étaient pas forcément dans les mêmes démarches que les gens qui font de la course à pied aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde mesure ses performances. Je pense qu'avant, il était plus question de...
Flo ?
Bah, je trouve que c'est un peu bizarre comme question, parce que dans le sens où les limites, on ne les connaît pas quand, tant qu'on n'y va pas non plus. Donc il y a bien un moment quand même où, en tout cas, il faut qu'on essaye de, au moins de les atteindre.
Oui. Tu vois ? Jérém ?
Non, je veux revenir sur ce que disait, dire coach Jérôme, mais c'est plus vraiment coach là aujourd'hui.
Pas aujourd'hui.
Ouais. Non, je suis plus sur la notion d'objectif. Alors on reviendra peut-être sur cette question dans l'émission prochaine éventuellement. Je suis pas certain que tout le monde fasse du sport avec des objectifs. En tout cas, moi j'en fais sans objectif. Et je pense que j'aurais du mal à le faire avec des objectifs. Cela dit, sur les limites, je pense. C'est un avis perso, mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse de les dépasser, mais plutôt de savoir où elles sont. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important. Savoir où elles sont placées, ça ne veut pas forcément dire aller au-delà ou s'en rapprocher, mais savoir.
Mais par exemple, il y a beaucoup de... Enfin, moi, je parle pour la course à pied, parce que moi, je pratique un petit peu. Et il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont se dire « Ah, tiens, le marathon, je l'ai fait en 4 heures. Je vais essayer de faire mieux. Là, en ce moment, c'est ma limite. Je vais essayer de faire 3h30, par exemple. Est-ce que pour vous, ça vous semble normal, ou est-ce que on peut se contenter aussi? Ben non, 4 heures, c'est très bien.
Ouais, c'est aussi une histoire de conditions physiques et tout, j'imagine. Il y a des fois, on reprend à courir et puis ça fait un an qu'on n'a pas couru, on a pris un peu de poids, etc. Et du coup, la limite, là, elle est très basse. Et puis, bah oui, comme tu dis, petit à petit, on va augmenter ses limites. Mais...
Oui, mais au-delà de ça, est-ce que tout le monde va forcément viser les 3h30 au lieu des 4h? Moi, je pense que ça dépend vraiment des gens. Hein,
des histoires de performance aussi.
Jérôme. Oui, et puis psychologiquement, je pense qu'il y a aussi des limites qu'on se pose à soi. Enfin, je sais pas,
oui, bien sûr.
Sur la course à pied, par exemple, quelqu'un qui a prévu de faire le marathon en 4 heures, peut-être pour certains, c'est voilà, j'ai rempli mon objectif, j'ai couru un marathon, j'ai fait moins de 4 heures, c'est super. Je pense qu'il y a tous un peu des négociations qu'on mène avec nous-mêmes sur d'entrée de jeu, ça je pense que je ne suis pas capable, alors que peut-être avec un entraînement, on est capable de certaines choses qu'on se refuse.
Donc finalement, ça serait plutôt fixer les objectifs et pas forcément aller chercher justement ses limites et les dépasser.
Bien. Ben merci pour ce débat, messieurs. Maintenant, on va passer à la troisième mi-temps.
Quel est le moment que le sportif attend ? C'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend ? C'est la troisième mi-temps.
De bière.
Et c'est toi, Mathieu, qui nous a concocté cette troisième mi-temps.
Ouais, je vais essayer de rester dans le thème encore. C'était pas facile de faire une troisième mi-temps qui reste dans le thème. Ben, vous le savez, la récente polémique au sujet de Noël Le Graët, avec ses propos à l'égard de notre Zizou national, ont suscité un véritable tollé. Les réactions ont été nombreuses et la FFF a pour une fois vite réagi avec la mise en retrait du dirigeant. Pourtant, parfois, des propos nettement plus répréhensibles sont proférés sans que rien ne se passe. Je vais donc vous proposer un petit quiz sur des propos de sportifs ou sur le sport. Et vous devrez me dire si c'est limite, car ça a été sanctionné ou condamné, ou alors si ça passe crème. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. On commence avec Philippe Candeloro, commentateur des Jeux Olympiques de Sochi en 2014 pour France Télévisions à propos d'une patineuse artistique canadienne.
Beaucoup de charme, hein, Valentina. Un petit peu comme Monica Bellucci. Peut-être un petit peu moins de poitrine, mais bon. En tous les cas, moi, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne.
Alors, limite ou ça
alors, c'était en quelle année ?
2014.
Je crois qu'ils avaient été emmerdés avec Montfort cette année-là, non ?
Alors, est-ce qu'ils avaient été emmerdés par France Télévisions ou juste il y avait eu un...
Un petit buzz, quoi.
Ouais.
Bon, il y avait eu le bol de riz aussi, là.
Oui, je crois qu'il y avait eu plus.
Elle a bien mérité son bol de riz.
Non, mais en fait, ça passe crème. Il y a juste le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a adressé une mise en garde à France Télévisions.
Ah oui, 94, hein, faut...
Non, 2014.
Ah, 2014.
Ouais, ouais.
C'est terrible.
Mais on comprend ta confusion.
Ouais, allez, ouais. On enchaîne avec un autre médaillé olympique, le judoka David Douillet, dans son livre « L'âme du conquérant » en 98.
Bah, pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, c'est pas quelque chose de naturel, de valorisant. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer. Oui, je suis misogyne. Mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes.
Oh, mais quel gros con, quoi.
C'est dans un bouquin.
C'est écrit noir sur blanc.
C'est écrit, ouais.
Bah non, ça s'est passé, puisque je vois pas.
Ouais, c'est passé, ça passe. Ouais, c'est passé. Ça a juste été condamné par Roselyne Bachelot en 2011.
Ah, ils ont été condamnés par Roselyne Bachelot.
Savoir, autant dire qu'il s'est rien passé.
Et sans savoir que ses propos venaient d'un mec du même gouvernement qu'elle.
Ah oui, parce que c'est ça, il était dans le gouvernement.
Pas mal.
On continue dans la poésie. Le 31 octobre 2009, Montpellier s'incline 2-1 contre Auxerre en division 1 de football. À la sortie du match, Louis Nicolin, président du club de Montpellier, s'en prend au milieu de terrain bourguignon Benoît Pedretti.
C'est dommage ce soir parce que je pense qu'un petit match nul, mais enfin, ils ont été meilleurs. Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse.
C'est triste.
Je crois qu'il a eu un match ou deux de...
Et des tiges un peu à faire ou quoi ?
C'était un peu trop limite, ouais. Nicolin a été condamné par le Conseil national de l'éthique à 2 mois ferme d'interdiction de toute fonction officielle et 2 mois avec sursis. Notre loulou national a d'ailleurs par la suite reçu plusieurs fois le titre de macho de l'année, décerné par le collectif Les Chiennes de Garde.
Mérité.
Étonnant.
Autre propos bien gerbant.
Beaucoup de membres de l'équipe de France de football, n'est-ce pas ? Le sont parce qu'ils ont été l'objet de naturalisation, de complaisance. On recrute trop facilement des étrangers qu'on naturalise. De Sailly est né au Ghana. Martins est binational portugais, n'est-ce pas ? Ayant opté pour la nationalité française pour pouvoir faire partie de cette équipe, Lamouchi est tunisien, né en France. Loco congolais, né en France. Zidane algérien, né en France. Madar tunisien, né en France.
Tu vas être bloqué après.
Jorger. Arménien né en France, Jeanne, au secours.
Donc vous l'avez reconnu à la voix, hein.
Marine Le Pen.
Il s'agit de Jean-Marie Le Pen.
Ouh.
Dans une interview à France Soir en 2016. Alors ses propos aux limites ou...
2000... Ouais, enfin,
ça passe pas au niveau de la...
Non, il a été condamné. Ouais, il a été condamné.
Ah, pour ça,
il a
été condamné.
Ah, non,
pas du tout.
Ah, non,
ça,
non.
Ah, ouais, c'est
au niveau de la gorge, au niveau de la gorge, ça ne passe pas. C'est limite.
Ah, ouais. Juste quelques indignations politiques par-ci par-là, quoi. Bon, allez, foot toujours. En 2019, Manchester United élimine le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Patrice Evra se lâche dans une vidéo postée sur Snapchat.
Paris, vous êtes des pédés ! Vous êtes des pédés ! Je le dis ! Ici, c'est des hommes qui parlent !
C'est beau, hein,
c'est
beau,
mec. Fait pitié.
Alors,
Non, c'est limite, je crois que ça a été... Non.
Ouais, il a été condamné en février dernier, il n'y a pas longtemps, à une amende de 1 000 euros pour injure homophobe.
1 000 euros, oui.
Ouais, il a payé 1 500 euros de dommages et intérêts aux associations Mousse et Stop Homophobie.
Mais c'est étonnant, dans son bouquin, il parle justement des joueurs homosexuels qui n'osent pas avouer leur homosexualité. Enfin, il prend leur défense, il dit que c'est dommage et tout. Et, bon, je ne sais pas s'il compense.
Il n'a peut-être pas tout compris.
Je ne sais pas, ouais.
Allez, une autre perle. En version originale cette fois-ci, pour montrer qu'à Golvolant, on est bilingue. Avec Carlo Tavecchio, le président de la Fédération de football italienne, qui avait déclaré en 2014 ceci à propos de Paul Pogba.
Petit Pogba est arrivé ici, et avant il mangeait des bananes. Aujourd'hui il joue titulaire en Serie A.
Le mec savait qu'il était enregistré là ?
Ah oui, c'était une conférence de presse.
Limite.
Enfin, en Italie, je sais pas.
Oui, oui.
Alors pour nous, c'est limite, mais ça a été limite pour pas mal de gens aussi. Ouais. Ouais. Il a été suspendu 6 mois par l'instance disciplinaire de l'UEFA. Okay. Nous sommes maintenant en 2019, pendant un match de Ligue 1 entre Strasbourg et Reims, avec la réaction du consultant de beIN Sport, Daniel Bravo.
Oh oui, je me souviens de ça.
Après le but de l'attaquant capverdien, Nuno da Costa.
Il y a de belles stats quand même. 6e but, 5e passe, 5 passes décisives, c'est pas mal pour un noir.
C'est pas mal pour un noir.
Non, mais c'est le contexte, faut remettre dans le contexte aussi.
Bah, lui, il a été. Si, il a dû avoir.
Non, rien du tout, ça passe crème. Juste des excuses sur Twitter de la part de la chaîne.
Pas de suspension d'antenne,
non, rien du tout.
Ah ouais.
Allez, on change de sport parce qu'il y a quand même pas mal de foot. Hein. Ouais. Avec le tennisman Michael Liodra en 2012 au tournoi d'Indian Wells. Il a lancé à l'encontre d'une spectatrice un peu trop brillante un fameux
putain de chinoise.
Alors ?
Pas drôle. Je... Si, il a dû être. Si,
oui, c'était un peu cher.
Ouais, ouais, c'était un peu limite. Il a écopé d'une amende de 2 500 $ par l'ATP. Oh. Mais surtout,
ça va quand même. Ouais.
Surtout après, il s'est excusé avec un fabuleux.
J'aime les Chinois. Je peux tout à fait faire l'amour à une Chinoise.
Véridique.
Quoi ? Oh là là là.
De quoi ? Il coche toutes les cases en même temps.
Parce qu'on va pas oublier quand même son. Non,
à lui, je le croyais pas.
Son Roland Garros 2011 où il s'était plaint à l'arbitre marocain avec un beau.
On n'est pas au souk ici. Hein. On ne vend pas des tapis sur un marché.
Il coche tout.
Gros, bingo. Gros coup aussi, ouais.
Formidable.
Bingo. Et c'est lui qui commente. Bon, c'est lui qui est consultant pour France Télévisions tous les ans.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Allô, tranquille. France Télévisions, allô. Allez, on repart de nouveau en version originale en Angleterre avec John Inverdell, commentateur sportif de la BBC, qui s'exprimait en 2013 au sujet de la tenniswoman Marion Bartoli.
Je me demande si son père, qui a évidemment été la personne la plus influente dans sa vie, lui a effectivement dit quand elle avait 12, 13 ou 14 ans, écoute, tu ne seras jamais, tu vois un canon, tu ne seras jamais comme Sharapova, tu ne feras jamais 1m80, tu n'auras jamais de longues jambes, donc tu dois compenser ça.
Oh là là, c'est pas limite. Ça, je pense que ça passe.
Hein. Ça a dû passer.
Ouais.
Ouais, juste des plates excuses de la part de la BBC. Bon allez, pour finir, cette réaction d'un supporter français qui n'est pas passé inaperçu à l'encontre de l'équipe turque de Fenerbahçe.
D'accord.
On ne peut pas jouer au foot là. Mais on met des artistes, on met des bouchers en face.
Des bouchers pour parler des Turcs quand même. C'est terrible, limite.
C'est cliché, Quentin.
Merci à tous pour votre participation.
Eh ben, c'est réjouissant en tout cas de finir.
Oui, j'ai vomi moi.
Ouais, il y a du vomi partout dans le studio là. C'est compliqué.
Eh ben, merci beaucoup. On a atteint la fin de cette émission, de cette laborieuse émission. Bon, je crois qu'on a abordé.
C'était quoi le thème aujourd'hui ?
C'est les limites. Ouais, c'était très limite. On a abordé toutes les facettes. Je trouve
les
limites.
Tous les sens.
Ça, c'était bien quand même.
Ouais.
Et ben merci à tous, merci à nos deux techniciens qui faisaient des allers-retours, Benjamin et Mathieu.
Chapeau.
Et merci à tout le monde qui était en plateau et Julien au chrono. Allez, à plus tard.
Bisous, bisous.
Bisous.
Ciao.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.
Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.